Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'Estivale du Local, votre quotidienne sur l'autre radio version été. On reste focus sur la Mayenne, mais de manière un peu différente de l'émission L'Agité du Local tout au long de l'année. Là, on va un peu s'éloigner de l'actualité, prendre un peu plus de temps. Et d'ailleurs, émission un peu spéciale encore aujourd'hui, on continue de donner la parole aux acteurs de Planète en Fête. L'événement était organisé par le Civambio 53 tout ce week-end à Cran, et parmi les nombreux stands autour du développement durable, celui du Repair Café. Plusieurs bénévoles se sont relayés tout au long du week-end avec comme objectif la création d'un futur Repair Café dans les prochains mois à Cran ou dans les environs. Et un bénévole du Repair Café de Laval-Saint-Berthevin a partagé son expérience et nous parle notamment du profil des personnes qui font appel à eux tous les mois.
Déjà, ils sont habitués à leur matériel. Alors, changer, allez, on va dire un blender pour un autre blender, dans le principe, ce sera la même chose. Mais les commandes ne seront pas placées de la même façon, donc, n'étant plus habitués, ils vont se tromper de bouton, etc. C'est comme les machines à laver, c'est pareil. J'en connais qui ont énormément de mal à changer de voiture. Parce que maintenant, c'est bourré d'électronique, comme beaucoup de choses. Et il y a plein d'aides à la conduite, et ils ne savent pas obligatoirement où c'est. Le tableau de bord de voiture, c'est passé à des tableaux de bord d'avion. Et à un mode d'emploi, souvent, qui fait 150 ou 200 pages. Très important aussi, les modes d'emploi. Il faut les lire et aussi les comprendre. Parce que ce n'est pas le tout de les lire. Moi, les modes d'emploi que j'ai lus, j'ai absolument rien compris. Parce que c'est une traduction de l'anglais en français ou d'une langue asiatique en français. Donc, il faut faire marcher sa tête. Ah, tout à fait. Oui, oui. Moi, il ne faut pas m'amener un téléviseur. Je n'y connais rien. Par contre, tout ce qui est petit électroménager, aspirateur... À la limite, machine à café, on a une... Je vais citer la marque, hein, une Senseo. La plupart du temps, c'est bourré d'électronique. Et s'il y a l'électronique, ce sont des composants de surface. Et les composants de surface, pour trouver la panne, c'est très compliqué. Ce sont des composants qui doivent faire 1,5 mm à 2 mm de long par 1,5 mm de large. C'est des puces minuscules. Et pour dépanner ça, il faut un matériel spécifique. Et il faut véritablement être électronicien. Je ne suis pas électronicien. Je suis de formation électromécanicien. Bon, je vous dis, c'est beaucoup d'observations. Hein. Mais les cafetières, notamment, très souvent, ça pète les résistances. Et de la même façon, les sécurités qui sont à l'intérieur. Bien souvent, le matériel, on ne trouve plus les pièces. On ne les trouve pas ou ils ne les font pas. Les industriels qui sont ingéniers à faire en sorte que ce ne soit pas réparable. C'est plus qu'un problème. Pour moi, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que on est obligé de jeter du matériel. Bien sûr que ça a fait travailler du monde en amont, si vous voulez. Mais par contre, ça a utilisé aussi, pour les composants électroniques, énormément de terres rares. On va finir par en manquer. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Bientôt, on n'en aura plus. Les aimants qu'il y a dans les disques durs, il y a des aimants très puissants qui génèrent un champ magnétique. C'est des terres rares. Toujours le deuxième dimanche du mois. Très souvent, il y a quelqu'un qui s'appelle Amaury qui s'occupe de la communication. À partir de septembre, ça se situe à la maison de quartier du Bourny, de 9h à 13h. Tout le monde peut venir avec son matériel, éviter les gros trucs, quoi. Quelqu'un est venu une fois, c'est ce qui m'a marqué, avec un tapis de course. Ça pèse 180 kilos, c'est imbougeable. Et puis, ils ont su le réparer quand même. Moi, j'y étais pas. C'était mon premier jour de Repair Café, en fait. Il est retombé en panne très rapidement derrière. Obsolescence programmée. Si c'est pas d'un côté que ça lâche, c'est l'autre. Notamment les téléphones portables, etc.
Demain, on met le cap sur un autre stand, celui de Terre de Liens. On parlera accès à la terre pour les paysans, agriculture biologique et épargne citoyenne. Troisième épisode de notre feuilleton de la semaine consacré au château de Lignières à Balais. Il y a 7 ans, Julien Ostini et sa compagne Véronique ont acheté le château après un véritable coup de cœur, même s'il tombait en ruine. Des travaux de restauration sont en cours et les activités proposées dans ce lieu participatif se multiplient, à l'image de l'espace muséal interactif Épopéa dédié au mythe de Persée. Suite et fin de notre visite privilégiée avec Julien Ostini. Souvenez-vous, si vous nous avez écouté hier, on s'était arrêté à l'ouverture de la porte du temple.
On a un jeu d'adresse où le but c'est de voir si on est aussi adroit et rapide que Persée pour saisir l'œil au vol entre le moment où les grilles se font tourner entre elles. Si on a réussi ça, on rentre dans la prochaine pièce et là c'est la pièce de la méduse. Bon, faites attention de ne pas croiser son regard. Sinon, vous feriez partie des pierres de Lignières. Donc là, on a rentré une demi-tonne de sable dans la pièce pour que ça crisse sous les pas, pour faire comme si on était dans une vieille grotte. On a transformé la salle, réduit le plafond. Et c'est tout un jeu de miroir et de lumière pour nous perdre un peu. Et il y a quelque part caché la tête de la méduse que le visiteur doit trouver. Et en fait, au fur et à mesure qu'on est dans la salle, au fur et à mesure, la lumière diminue aussi et change de couleur, ce qui fait que ça devient de plus en plus intense. Donc après, évidemment, en fonction de la dynamique du groupe ou des âges des spectateurs, on va plus ou moins loin dans le jouer à faire peur ou au contraire rassurer et chercher. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comme c'est une attraction où on réserve un créneau pour une heure et puis on part à chaque fois, la visite est unique et réadaptée pour le groupe, quoi. En théorie, on peut aller jusqu'à 40. Après, voilà, une vingtaine, c'est bien, ça permet à chacun de... L'idée aussi, c'est que c'est vraiment de l'interaction. Donc on échange, on discute, on joue ensemble, donc il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et donc, une fois qu'on a trouvé la tête de la méduse, on a le droit d'emprunter la voie des airs pour aller dans la salle de Pégase. On a créé des statues pour le décor, de personnages pétrifiés au milieu de ces rochers. Et moi, j'avais vraiment envie aussi de donner l'envie, ou en tout cas d'y mettre des vraies œuvres d'art. Donc évidemment, on n'a pas les moyens d'avoir un vrai Giacometti, mais on a reproduit deux Giacometti. Comme ça, ça nous permet de présenter cet artiste aussi, comment il a réussi avec le bronze et des personnages quasi filiformes à saisir le mouvement de l'humanité. Là, quand on arrive là, c'est qu'on a réussi à échapper à la méduse et qu'on arrive... dans les cieux, avec une série de bronzes de Pégase immergeant des eaux. Et on a surtout mis en valeur à cet endroit-là la charpente du monument, qui a été entièrement restaurée et sauvée, qui est une des toutes premières charpentes mansardes de France. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut prendre la dimension du bâtiment en réalité, où avant on a joué avec une déclinaison du niveau, c'est-à-dire que vous étiez dans une salle de colonnes très haute et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, tout se rétrécissait. Et là, de nouveau, tout redevient grand. Et donc là, on voit les 48 mètres de long, les 10 mètres de large, les 17 mètres sous faîtage avec cette charpente qu'on a sauvée. Donc c'est aussi le petit moment un petit peu patrimoine où on peut raconter un peu plus l'histoire du lieu et du bâtiment avant de s'intéresser au bronze, aux nuages. Et puis c'est le seul endroit où on a mis un écran. On va projeter un certain nombre d'images d'iconographie qui ont été inspirés par le mythe. Donc on remet les tableaux célèbres, les sculpteurs célèbres, mais aussi les versions contemporaines aujourd'hui, les chevaliers du Zodiac pour Pégase par exemple. L'idée, c'est vraiment de refaire le lien et puis de voir un petit peu, de se donner un tour d'horizon à quel point ce mythe s'est inscrit dans l'architecture classique et ancienne jusqu'à la statue de Méduse qui a été mise il y a 2 ans en face du tribunal pénal de New York par les mouvements MeToo, parce que la figure de Méduse est devenue une des figures du féminisme. Et à la fin, une fois qu'on a fait tout ça, le dernier moment qui est un de mes moments préférés de la visite, c'est qu'on a au bout de cette grande mezzanine de 200 mètres carrés, on a un rocher qui est le rocher d'Andromède, sur lequel elle a été enchaînée et que Persée doit venir sauver. Et on a fabriqué un monstre marin et le public devient le monstre marin. Donc on choisit un ou une volontaire pour être Andromède et être enchaîné. Puis tous les autres se mettent sous la cape, la tête monstrueuse, les gros yeux globuleux et font le monstre marin. Et puis après, on a évidemment l'arrivée de Persée, le héros qui la sauve. Et comme ça, tout le monde peut revivre un moment de l'histoire et on finit vraiment en se prenant pour percer. Donc voilà, on a ambiance dramatique, on a les machines à lumière qui font des effets de vagues sur le rocher et moi j'adore parce qu'à chaque fois on fait les dingues. Et là, en fonction des groupes, ça peut durer 10 minutes. Hein. Et après, on fait une photo finish comme dans les safaris où les gens se mettent autour de la tête du monstre posant devant le rocher ayant sauvé Andromède. Et une fois que c'est fini, eh ben on avance par là et on va redescendre en fait depuis le haut des gradins. On est à la fois dans du théâtre très contemporain, des lumières hyper modernes, où là les nuages c'est typiquement la méthodologie de décor baroque à l'époque de Louis XIV. Et moi j'avais envie que ce soit un voyage, on se sente comme pris dans un décor, dans une ambiance, dans une atmosphère. Petit à petit en fait on oublie où on est. Après, quand on ressort dans la cour, on se dit « Ah oui, c'est vrai qu'on est là ». Souvent, les gens sortent et regardent le bâtiment de l'extérieur et se disent « On n'arrive pas à croire que ce qu'on vient de faire, c'est dans ce bâtiment dedans. Pour nous, c'est réussi, ça veut dire que la magie, elle est créée.
Un public très large a déjà pu en profiter, que ce soit des lycéens, des collégiens, des écoliers, des comités d'entreprise ou bien sûr des particuliers. L'objectif reste toujours d'échanger, de créer du lien et de prendre le temps pour ça. D'ici 2 semaines, l'opéra participatif prendra ses quartiers juste devant cet espace muséal Epopéa. Et justement, ce sera notre focus de demain. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous donc demain pour l'estival du local. Je vous rappelle les horaires, c'est donc 7h30 et 12h15. Très belle journée.